Alors, un bref historique sur les prêtres. Alors, tout d'abord, il faut savoir que chez les peuples qui environnent Israël, la fonction de prêtre est généralement exercée par le roi. Quand on regarde chez les Assyriens, les Égyptiens, voilà, en Mésopotamie, c'est les rois qui sont prêtres, en fait. C'est eux qui font à la fois le berger du peuple, berger du troupeau, qui commande, qui exerce l'autorité, et dimension sacerdotale, de faire venir les grâces du Seigneur, de bénir, etc. Et donc, il y a une tentation permanente, forcément chez les rois d'Israël, de vouloir faire exactement comme les prêtres. Dans les faits, on verra qu'ils le font, les rois sont aussi prêtres, mais il reste quand même des choses qui sont réservées aux prêtres, notamment Saül, à un moment, offre un sacrifice, alors que Samuel, qui était prophète et aussi prêtre, lui avait dit « Attends-moi ». Voilà, on voit qu'il y a toujours cette tentation de vouloir s'accaparer une place qui n'est pas la nôtre, comme sainte Thérèse, en fait, qui dit « Je veux toutes les grâces ». Mais elle était un bon exemple, elle a été docteur de l'Église, parce qu'elle s'est à la fois accaparée les grâces tout en respectant la hiérarchie, l'harmonie que le Seigneur avait instituée. Voilà, ça c'est le bon exemple à suivre, je dirais. Et les mauvais exemples, ça va être, il y a plusieurs rois d'Israël qui, à certains moments, commettent le péché grave de faire le sacrifice en lieu et place du grand prêtre dans le temple. Et ça, c'est quelque chose de... On devrait admirer chez nos frères prêtres leur dimension sacerdotale, qui est très belle et qui est très marquée, je dirais, parce que eux, ils ont consacré toute leur vie à ça. Mais ça devrait s'arrêter à je vais calquer un petit peu ma dimension sacerdotale, ma capacité d'être prêtre sur eux sans usurper les choses qui leur reviennent de droit. Voilà, faut trouver la bonne limite, forcément. Donc on a les patriarches dans les premiers temps de l'Ancien Testament. Les patriarches, donc Abraham, Isaac, etc. Ils construisent des autels, ils offrent des sacrifices, on voit Caïn et Abel, ils offrent des fruits, des animaux, vous voyez. Donc en fait, n'importe qui, enfin surtout, on va dire, les patriarches, les responsables de famille, exercent ce rôle de prêtre, c'est un sacerdoce familial. Voilà, ça c'est la première époque, je dirais, des prêtres. Alors ensuite, on a une charnière à partir de Moïse. Vous savez, Jacob a 12 fils, et ses 12 fils engendrent les 12 tribus d'Israël, toute leur descendance. Les noms de ses fils, ça deviendra les noms des 12 tribus d'Israël, et chaque tribu va recevoir, avec l'histoire qui est la sienne, des grâces particulières, et le Seigneur va donner des grâces aussi par rapport à leurs faiblesses particulières. Et à partir de Moïse, ça va être les Lévites, donc les descendants de Lévi, qui vont se spécialiser et devenir prêtres petit à petit. Voilà. Et dès lors, on va dire, quand on va dire Lévite, ça veut dire prêtre, même si le sacerdoce familial continue à s'exercer. Mais disons que le rôle de prêtre va se spécialiser et les sacrifices vont se diversifier. On va complexifier les sacrifices. Non pas juste en offrant des fruits, des légumes, ou des bénédictions à Dieu, ou des prières, mais aussi en faisant des sacrifices plus poussés dans le temple, avec de l'encens, on va aller... Alors, non, il n'y a pas encore de temple, excusez-moi, mais on va petit à petit complexifier les choses. Avec forcément le pendant de ça, c'est la tentation de trop se centrer sur les rites, parce que dès lors que ce qu'on offre à Dieu, on le complexifie, par exemple une prière un petit peu complète, la tentation c'est toujours d'être un petit peu aveuglé par le texte de la prière, ou par il faut faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite faire ce geste-là, et vous voyez, ou la messe même, la tentation qu'on a à la messe, c'est de rabâcher comme les païens, voilà. C'est quand les rites deviennent plus complexes, on touche à... On a une capacité peut-être de toucher le mystère de la divinité de manière plus parfaite, parce que dans l'harmonie, il y a, c'est pas juste le règne des animaux, des oiseaux, enfin des plantes, etc. C'est plus complexe que ça. En fait, il y a des espèces, il y a des taxons, et même au sein d'une espèce, il y a plein de, vous voyez, il y a une variation dans la nature qui est infinie. Et ben dans les rites, c'est pareil en fait. Et les rites sont un peu à l'image de ce qu'on trouve au ciel. Donc forcément, à la fois ça élève l'âme, et à la fois notre condition humaine fait que il y a toujours la petite voix qui nous dit attention, reste simple dans ton cœur, quoi. Voilà. Donc ça c'est à partir de Moïse, et puis à Aaron forcément, qui est le grand prêtre, qui est un petit peu un des fondateurs avec Moïse évidemment, mais c'est le grand prêtre de référence, qui était Lévite lui-même. Alors, on va avoir ensuite l'époque de la royauté, et puis notamment un roi qui s'appelle Josias, qui, en 621 avant Jésus-Christ, retrouve les livres de la loi, Et puis il se dit, il déterre l'Ancien Testament en fait, et il dit mais c'est génial, il va le lire au peuple et il va se rendre compte de l'écart qu'il y a entre ce que Dieu demande et ce que le roi fait, ce que les prêtres font, etc. Et lui, il va carrément faire une réforme importante au niveau du sacerdoce en disant, maintenant je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un temple, c'est Jérusalem. Donc on va supprimer tous les sanctuaires locaux, tous les endroits où il y a des sacrifices autres qu'à Jérusalem. Et tous les prêtres de campagne, on va les rapatrier à Jérusalem et ils vont officier et ça va faire un énorme collège de prêtres à Jérusalem. Les gens viendront faire des pèlerinages. Donc on a une image, je dirais, de une fédération du culte et de la doctrine en fait. C'est un petit peu la préfiguration de un peu comme s'il faisait un concile en fait. Sauf que lui, il est roi, alors il statue comme ça, mais on peut imaginer qu'il a pris conseil, qu'il a prié avant, peut-être qu'il est allé voir les prophètes de son époque pour demander qu'est-ce que t'en penses, parce que forcément, le prêtre qui tue des taureaux sur le même autel que celui qui offre à Baal ou à je sais pas qui, eh ben, on va le voir après dans les règles de sainteté, comme il introduit des éléments étrangers, en fait, c'est comme s'il scandalisait, en fait, parce que juste avant lui, il y a peut-être quelqu'un qui fait flamber des serpents en faisant comme ça devant un autre d'autres dieux. Et donc, c'est pas, enfin, on n'imagine pas qu'ici il y ait entre deux messes, en fait, des gens qui viennent faire d'autres sacrifices à d'autres divinités. Ça paraît inconcevable. Bah, à l'époque, c'est ça qui se passait, parce que dans chaque localité, c'était la culture, finalement, d'accueillir les dieux de tout le monde. Voilà. Et il y a des Babyloniens, puis il y a des Assyriens, et puis il y a des Égyptiens, etc. Et puis, bah, il y a l'autel où il y a les statues de tous les dieux, en fait, alignés, quoi. Voilà. Mais le dieu d'Israël, lui, n'est pas comme ça. Lui, il dit, ben moi, je veux de l'exclusivité, quoi. C'est pas les sacrifices de tout le monde juxtaposés. Et c'est le combat de la vie chrétienne, d'ailleurs. C'est d'arracher les mauvaises herbes de notre vie chrétienne. Voilà, donc ça, c'est dans 2 Rois 23, 8. La réforme de Josias. 2 Rois 23, 8. Et puis après, on a l'exil, donc le peuple qui est déporté. Et puis avec l'exil, donc il y a toute une réflexion sur le sacerdoce, parce que il y a plus de temple, enfin il est aux mains des ennemis, et ça va être Sadoc qui va devenir la référence du prêtre, parce que Sadoc, c'est le symbole du prêtre qui est resté fidèle, malgré les déviations de tout le reste du peuple et d'une partie des prêtres. Voilà, qui comme Aaron, un moment, cédait au peuple pour offrir le veau d'or, voilà, il y a une manière de pactiser avec l'occupant ou avec d'autres divinités. Et Sadoc, c'est celui qui est resté fidèle. Et dans Ézéchiel, on voit ça, qu'il y a des promesses de Dieu pour lui. Et il y a un transfert de la grâce. Vous voyez, Dieu dit, ben, j'envoie mes grâces. Et puis quand certains la refusent, comme avec les mauvais anges, eh ben, je transfère la grâce. Et c'est les prêtres ou ceux qui utilisent leur dimension sacerdotale et qui la reçoivent du Seigneur, qui se laissent laver par le Seigneur, qui vont se retrouver au ciel, même au-dessus de certaines hiérarchies angéliques, parce qu'ils vont prendre la place. Et Sadoc, il est celui qui prend la place de la famille d'Aaron, en fait. C'est comme s'il y avait eu, une descendance, une succession des prêtres, et puis à un moment, il y a une interruption, parce que ils ont refusé la grâce, ils ont péché gravement, et puis c'est Sadoc qui prend la suite des grâces. Voilà. Donc il y a des persécutions par Antiochus Épiphane, et au temps d'Hérode, eh ben, on avait les grands prêtres, qui étaient fort proches du pouvoir politique. Voilà, donc, les prêtres sont nommés, d'une manière générale, par le pouvoir politique. Ça, c'est quelque chose de... moi qui m'a toujours surpris, et dans l'Église encore aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'est des gens comme notre président d'aujourd'hui, ou comme des personnes qui sont complètement dans la politique, et pas forcément du tout chrétiens, enfin c'est des responsables d'État qui vont mettre leur veto, enfin qui vont dire, pour le nouvel évêque de tel département, l'Église va proposer plusieurs évêques possibles, et puis ils vont dire, bah, c'est lui qu'on prend. Vous voyez, c'est le pouvoir politique qui fait ça, c'est surprenant. Le Seigneur, je dirais, a maintenu un lien entre la politique et le sacerdoce, de manière à dire, bah, vous avez choisi lui, bah, je vais lui donner les grâces. C'est déjà un signe en tant que tel, quoi, que le gars qui a été choisi, un peu comme Jean 23, on s'est dit, bah, on va mettre, à l'époque, je sais pas si vous avez vu le film sur Jean 23, on va mettre ce gars-là parce qu'il nous fera pas suer, quoi. Et puis le gars, il arrive, et puis il dit, bon, j'ai entendu une petite voix dans la chapelle, et là, je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint, on va faire un concile, les gars. Et ils sont dépités, parce qu'ils disent, c'était un faible d'esprit, quoi. Et en fait, il reçoit les grâces, quoi. C'est très beau, je trouve. Donc, je reviens au temps d'Hérode. Le prêtre qui prend la suite, c'est Jésus, le prêtre par excellence. Et en ce moment, d'ailleurs, on lit la lettre aux Hébreux. Elle détaille en quoi... il y a les prêtres de l'Ancienne Alliance, Et Jésus, le prêtre de la Nouvelle Alliance, va reprendre tout ce qui était dit dans l'Ancienne Alliance, mais accomplir tout ça et cumuler tout ça. Et ça, c'est très beau. Et il y a une méditation qui est très profonde. Et curieusement, Jésus ne s'attribue pas le titre de prêtre. C'est-à-dire que, de la même manière, on avait dit la dernière fois qu'il ne dit pas « je suis prophète ». Il dit « nul n'est prophète en son pays », par exemple. Il suggère qu'il est prophète, que les prophètes sont persécutés, que lui va mourir et donc que lui aussi est un prophète. Il suggère qu'il est prêtre, parce qu'il dit « je vais donner ma vie en rançon ». Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc celui qui sert à la base, c'est le prêtre qui est au service du reste du peuple. Et pour donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire pour accomplir le sacrifice parfait, en fait. Voilà. Donc en fait, il est à la fois le prêtre parfait, il est à la fois la victime parfaite, et il est à la fois l'époux qui épouse son peuple par ce geste de prêtre et de victime. Vous voyez, il cumule différents rôles, comme s'il était à la fois Abraham qui a la foi, on peut dire ça comme ça, même si lui n'avait pas la foi, et Isaac qui accepte de s'offrir par les mains de son père. Vous voyez, il récapitule tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament sur les prêtres. Alors voilà, il enseigne la parole et son accomplissement. On verra que l'enseignement, c'est un des rôles des prêtres, de donner la parole. Il est de la tribu de Juda par son père. Joseph, il est issu de la tribu de Juda. Donc il y a une rupture. On se dit, mais alors, normalement, ça devrait être un Lévite, Jésus. Effectivement, il est de la tribu de Juda. Et en même temps, son père n'est pas son père biologique, au sens où c'est l'Esprit Saint qui est venu dans le sein de la Vierge Marie. Par contre, il y a un certain nombre de traditions dans l'Église qui disent que il est issu quand même de la tribu de Lévi par sa mère, parce que, en fait, son père, Joachim, est issu de la tribu de Juda, lui aussi. Donc, Marie et Joseph ont respecté les traditions juives de rester à l'intérieur de la tribu de Juda, vous voyez. Voilà. Et par Anne, donc la mère de la Vierge Marie, il est dit que Élisabeth était sa parente. Et Élisabeth était la femme du grand prêtre, donc issue de Aaron, vous voyez, de la lignée de Lévi. Donc, en s'appuyant là-dessus, on peut dire Marie était issue de la famille de Lévi par sa mère. Voilà. Et un certain nombre de, si vous lisez un petit peu des prophètes comme Maël Valtorta ou d'autres, il y a plein, ou Anne-Catherine Emmerich, majoritairement, ils disent que Marie était issue de Lévi. En fait, tous rejoint quand on étudie et ce que disent les traditions de l'Église, les textes, et puis ceux qui prient et qui reçoivent des choses du Seigneur. Donc Jésus est bien un prêtre, étant issu de la tribu de Lévi. Alors ensuite, l'étape ultime, ça va être la transmission du rôle des prêtres dans le baptême, parce que dans Vatican II, il est dit, par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Donc Jésus, en instituant le baptême et en subissant lui-même le baptême, alors que de manière absolue il n'en avait pas besoin, eh bien il transfère ce rôle de prêtre à tout baptisé qui accepte de s'ouvrir à la grâce. Voilà, parce que c'est d'abord la grâce, c'est d'abord un tison que Dieu arrache du feu, et ensuite forcément le cœur ouvert de la personne qui s'ouvre à la sainteté, à la purification, quoi, à se laisser inviter au banquet de noces, à enlever ses habits sales pour rentrer dans la salle des noces et officier avec le Seigneur pour pouvoir sauver l'humanité avec lui. On a l'Apocalypse et la première lettre de Pierre qui disent ça, en fait. Parce que quand dans Vatican II on dit que les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, en réalité c'est une interprétation de l'Apocalypse et de la première lettre de Pierre, c'est-à-dire la vocation royale, enfin la vocation en gloire, voilà, les personnes qui intercèdent pour les autres dans la gloire avec un encensoir d'or, tous les rachetés qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voilà, on retrouve ça. Ça désigne les baptisés déjà sur la terre. Donc dans le baptême, il a transféré cette possibilité pour les baptisés d'être prêtres. Et par excellence, dans la scène, c'est-à-dire le jeudi saint, où il va instituer les prêtres que sont ses disciples, en fait, qui vont devenir des prêtres. Et donc il leur transmet la capacité d'opérer des sacrifices, le sacrifice parfait qui est l'Eucharistie, en fait, les sacrements, l'enseignement. Donc on voit qu'il a gardé le bon vin pour la fin. C'est-à-dire que pendant 3 ans de sa vie publique, enfin, il a accompli Cana, parce qu'il a enseigné, il a fait des miracles, il leur a appris à chasser les démons, il leur a appris à faire plein de trucs, et à exercer leur sacerdoce de baptiser. Et il a gardé le bon vin pour la fin en disant, je vais poursuivre ce qui a été fait par mon père dans tout l'Ancien Testament, où on va spécialiser le rôle de prêtre pour qu'il y en ait qui concentrent la grâce d'une manière particulière pour accentuer le règne de Dieu sur la terre. C'est les prêtres, voilà, divinement, enfin institués par l'onction des mains, l'onction de, d'un évêque en communion avec l'Église. Et donc ça, tout ça, c'est médité. Il y a des épîtres qui méditent tout ça, les épîtres à Timothée et à Tite, qui vont parler des anciens. On va réfléchir un petit peu sur l'organisation de l'Église, donc ça permet de méditer ça. Voilà. Et c'est là qu'on trouve le mot prêtre. Prêtre, c'est presbytéros, c'est ancien. C'est la personne ancienne. L'ancien, donc ça va être, dans tout l'Ancien Testament, on a vu, c'est plutôt les chefs de famille qui vont être les anciens, le roi qui va être considéré comme l'ancien. Comme il est dit à un certain nombre d'endroits, notamment dans le psaume le plus long, 118-119, il est dit à un endroit que « je surpasse les anciens car je médite sur ta parole ». Vous voyez, il y avait déjà une préfiguration du fait que le rôle de prêtre allait se transmettre à un moment. Voilà. Même le rôle de prophète allait se transmettre parce que le fait de méditer sur la parole de Dieu, de prier, on va avoir des racines sous la terre qui ne se voient pas. On va être comme un arbre avec des racines tellement abondantes que... on va avoir une capacité de faire fleurir des grâces prophétiques, des grâces sacerdotales incroyables. En Christ, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce royal et saint. Donc, si je reprends le bref historique, on a d'abord les patriarches, sacerdoce familial, à partir de Moïse, spécialisation des prêtres, et puis ça va s'accentuer avec les réformes de Josias, avec le temple, avec les prêtres qui deviennent fonctionnaires, avec la transmission à d'autres prêtres qui sont plus dignes de recevoir la grâce. Et puis, au temps de Jésus, en fait, c'est Jésus qui accomplit le rôle de prêtre par excellence et qui transmet ça à ses disciples, à tout baptisé et aux prêtres qui l'instituent.